Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.
Quelle intelligence avait Léonard de Vinci ? Existe-t-il une ou plusieurs formes d'intelligence ? L'intelligence est-elle innée ou au contraire peut-elle être éduquée ? Les grands penseurs de l'humanité ont essayé de cerner cette faculté depuis la Renaissance. C'est seulement au XXe siècle que le concept d'intelligence humaine a fait un bond en avant en tirant parti du développement de la pensée scientifique et des recherches sur le cerveau. Howard Gardner s'est intéressé à une intelligence particulière, celle des intelligences multiples. Pourquoi ? De nombreux systèmes éducatifs de par le monde s'appuient encore sur le fameux QI, quotient intellectuel, alors que chaque personne a un mode préférentiel d'apprentissage. Pour cela, je vous invite à découvrir dans Messages de vie, MES plus loin sage, la série d'émissions du Voyage intérieur à l'école des intelligences multiples. Bruno Hurst a écrit cet ouvrage destiné aux enseignants et aux adultes mal adaptés au système scolaire traditionnel. Le livre s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, dont une vidéo diffusée sur YouTube, visionnée par plus de 600 000 personnes. C'est vous dire que notre capacité à apprendre est bien supérieure à ce légendaire quotient intellectuel. C'est une délicieuse trajectoire qui nous est donnée maintenant à mieux comprendre. Mais la question que je vais poser à Bruno Hurst immédiatement, c'est quoi être intelligent ?
Ah, c'est une question à laquelle l'humanité cherche de répondre depuis des centaines ou des milliers d'années. Les anciens Grecs, les théologiens se posaient la question, saint Thomas d'Aquin, je crois, se posait la question. Puis maintenant, ce sont les neuroscientifiques, les psychologues qui se posent la question. En fait, on n'en sait rien. C'est quoi d'intelligent ? On aimerait bien tous savoir qui est intelligent, mais c'est très difficile à définir. Je prends un exemple. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que Mozart était intelligent ? On va dire que oui. Bon. Est-ce qu'Einstein était intelligent ? On va dire que oui. Mais alors, quel rapport entre Mozart et Einstein ? On ne voit pas très bien quel serait le dénominateur commun. Donc ce domaine de l'intelligence travaille l'humanité depuis toujours, mais elle a beaucoup de mal à y trouver une réponse. Et alors il y a des différentes théories qui ont été mises au point au fil des siècles. En général, ces théories sont des théories des spécialistes, de psychologues. Par exemple, Jung a défini 4 formes d'intelligence différentes. Hein, bon, mais c'est des théories qui sont compliqué à comprendre, complexe. Donc, pour répondre à ta question, on va se tutoyer. Pour répondre à ta question, être intelligent, c'est très difficile à définir, mais c'est intéressant d'avoir un outil qui permet tout de même à tout un chacun, c'est-à-dire à toi, à moi, à la personne qui nous écoute, à vous qui nous écoutez, de comprendre un peu mieux ce que c'est qu'être intelligent et surtout de pouvoir en faire quelque chose. Parce que c'est bien, bon, on peut passer des jours à étudier la théorie d'intelligence de Jung, par exemple, mais est-ce que c'est ça qui va t'aider à mieux vivre, à être plus heureux dans ta vie, dans la vie de couple ou à élever des enfants ? Rien n'est moins sûr. Tandis que la théorie des intelligences multiples, telle que je l'ai comprise depuis plus de 20 ans dans lequel je la travaille, on peut l'apprendre à un enfant de grande section de maternelle, ce qui n'est pas rien. Il va la comprendre, alors peut-être pas avec les mots officiels, mais il va la comprendre tout à fait, parce que ça parle bien à l'intuition.
Message de vie. Donné à comprendre.
À l'école des intelligences multiples, Bruno Hurst.
J'aimerais parler de quelque chose que je connais, qui est bien ancré dans nos mémoires, et dans ma mémoire, c'est le quotient intellectuel. Je me souviens d'avoir passé le célèbre quotient intellectuel, Est-ce que c'est vraiment fiable? Parce que c'est à partir de là qu'on peut définir si quelqu'un est intelligent ou pas.
Alors, il faut faire un petit peu d'histoire. Hein. Alfred Binet, qui a défini ce quotient intellectuel, c'était sur ordre du gouvernement pour pouvoir, en gros, trier les enfants au XIXe siècle. Et cette idée de coefficient intellectuel se basait sur deux idées qui sont, à mon sens, radicalement fausses. C'est-à-dire que l'intelligence est fixée pour la vie. On a un QI de, je sais pas, 110, par exemple, pour la vie. On ne peut pas le modifier, ce qui est une erreur. Et puis qu'on peut mesurer l'intelligence sur une échelle. Mais on mesure quoi sur une échelle? Donc, par exemple, un enfant qui est très doué, je ne sais pas, visuellement, est-ce que, ou bien en musique, est-ce que le QI va prendre en compte ses talents? Non. Alors, en gros, pour simplifier, parce que ça a évolué tout de même, on l'a amélioré, le quotient intellectuel mesure assez bien la possibilité de réussir dans un système scolaire français. Voilà. Alors, si on a la malchance de ne pas avoir les bonnes formes d'intelligence qui vont bien, celles qui sont demandées à l'école, on va d'abord avoir des résultats au QI médiocres, et puis on va avoir des problèmes à l'école. Est-ce que tu sais quel est le quotient intellectuel moyen, c'est-à-dire à quel moment on est moyennement intelligent? C'est 100. C'est-à-dire, si on a 100 de QI, on est moyennement intelligent. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu seras plus heureux que ça? Est-ce que tu vas mieux élever tes enfants? Est-ce que tu vas gagner plus d'argent avec un 100 de QI? Alors, ceux qui ont 140 de QI, est-ce qu'ils sont plus intelligents? Est-ce qu'ils vont être plus heureux? Rien n'est moins sûr. Et si on a un QI de 80, est-ce qu'on est un débile mental profond et qu'on ne va pas laisser sa marque dans l'humanité? Rien n'est moins sûr. Donc, la notion de QI, il y a des absurdités partout quand on y touche. Donc, c'est bien d'en parler. Mais justement, Howard Gardner et sa théorie des intelligences multiples donnent une vision beaucoup plus riche, humainement parlant, parce qu'elle va pouvoir expliquer, on va dire, toucher, permettre de comprendre beaucoup plus de monde que le QI qui se focalise sur des plans bien précis.
Quelle est cette forme d'intelligence dont on parle dans le QI, et qu'est-ce que Gardner a trouvé de différent?
Alors, en gros, dans le QI, même si ça a un peu évolué, on étudie essentiellement ce que, dans la théorie des intelligences multiples, on appelle intelligence logique, mathématique, verbale, linguistique. Ce sont les deux intelligences qui sont les plus utilisées à l'école et que les tests de QI mesurent.
Verbal,
c'est-à-dire tout ce qui concerne les mots. Logique, tout ce qui concerne la logique. Et puis maintenant, par rapport à Alfred Binet, ils ont rajouté un aspect visuel aussi, hein, c'est-à-dire la manière de raisonner spatialement dans sa tête. Bon. Mais encore une fois, si tu as des facilités à entrer en communication avec les autres, ce qui doit être ton cas, Richard, ou si tu as une vie intérieure profonde, jamais le test de QI va prendre ça en compte. Alors, pour ne pas confusionner les auditeurs, peut-être il serait bon de clarifier quelles sont les 8 formes d'intelligence, parce qu'il en a défini 8, Howard Gardner. Et comme ça, on pourra mieux comparer avec d'autres choses. Alors, il définit 8 formes d'intelligence qu'on a tous à notre naissance, qui sont issues de l'évolution de l'humanité. Et avant de les citer, toutes les 8, il est important de comprendre que pour lui, toutes ces formes d'intelligence ont la même importance. Alors que dans différentes cultures, certaines ont plus d'importance que d'autres. Alors, allons-y.
À l'école des intelligences multiples, Bruno Hurst.
Message de vie, entendre un monde qui nous entoure.
On est bien obligé de prendre un ordre, mais il n'y a pas d'ordre hiérarchique dans ce que je vais dire. L'intelligence visuelle spatiale, c'est la capacité à se créer des images mentales. Voilà, tu es chez toi, tu dis à ta compagne, tiens, on va changer les meubles, on va mettre tel meuble ici. Bon, voilà, tu te crées des images mentales. Un cinéaste va se créer des images mentales, un metteur en scène va se créer des images mentales, ou un architecte d'intérieur, il se crée des images mentales. Ça, c'est l'intelligence visuelle spatiale, première forme d'intelligence. Une deuxième, l'intelligence corporelle kinesthésique. Alors, c'est des mots un peu lourds, mais on verra que ça, c'est des notions très pratiques. C'est la capacité à utiliser son corps d'une manière fine. Alors, on pense aussitôt, à une danseuse ou danseur, mais imagine un chirurgien qui n'ait pas cette intelligence corporelle kinesthésique, il vaut mieux changer de chirurgien, quoi, parce que la précision du geste, pour lui, est absolument essentielle. Et ça, c'est l'intelligence corporelle kinesthésique. Intelligence essentielle pour beaucoup de métiers, et même pour conduire une voiture. Hein. Si tu n'as pas des gestes précis, tu te mets dans le fossé. Donc la deuxième forme d'intelligence, c'est utiliser son corps de manière précise, corporelle, on l'appelle corporelle kinesthésie. La troisième, l'intelligence musicale rythmique, c'est la sensibilité au son. Alors on va dire, ah oui, mais ça c'est pour les musiciens. Non, quand dans la voiture, tiens chérie, il y a un petit bruit dans le moteur, c'est l'intelligence musicale rythmique. Les psychologues ou les psychanalystes, ils sont sensibles au ton des voix, aux variations des tons, ils vont dire, oup là, tiens, la manière dont il a prononcé cette phrase, à mon avis, quelque chose à creuser. Ça c'est l'intelligence des sons, on tire des informations des sons. Et toi, bien sûr, tu as forcément développé pour faire ce métier cette intelligence de l'intelligence musicale rythmique. En voilà trois. Après, il y a les deux intelligences qu'on utilise massivement à l'école, l'intelligence verbale, linguistique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les mots qu'on lit, les mots qu'on écrit, les mots qu'on entend, qu'on parle. Hein. Là, c'est ce qu'on utilise à la minute, c'est ce qu'on utilise. Hein. On utilise une des intelligences, l'intelligence verbale linguistique. Je parle, voilà, pour exprimer quelque chose, j'utilise cette intelligence verbale linguistique. Elle est très utile, bien sûr, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc l'intelligence verbale linguistique, très utilisée à l'école, le prof parle, hein, les élèves écrivent, enfin tout ça, des mots indéfiniment. Ça, c'est l'école est très championne de la verbale linguistique. Elle est aussi championne de la logique mathématique. Tout ce qui est logique, c'est-à-dire les causes, les conséquences, hein, quelles sont les causes de la guerre de 14, bon, on va définir ça. Tout ce qui est... toutes les sciences, bien sûr, sont basées sur les déductions, une démarche scientifique. Là, c'est une intelligence, donc logique mathématique. Très utilisée à l'école, et même ça sert à trier, en fait, hein, beaucoup les élèves. On en est à 5. Alors après, il y a l'intelligence naturaliste. C'est tout ce qui a deux aspects. C'est le rapport avec la nature. Là, tu as choisi que cet entretien ait lieu dans un jardin, avec le chant des oiseaux, avec le vent dans les feuilles d'arbres. Ça a été un choix parce que tu pensais que... Voilà, j'en déduis que ton intelligence naturaliste est bien développée, tu vois. Et sans doute bien développé. On ne va pas tirer des conséquences. Et puis l'intelligence naturaliste aussi, c'est la capacité à classifier. On ne va pas mettre dans la même famille les insectes et les araignées. On va différencier les différents types de baleines, tout ça. Ça, c'est ce que font les naturalistes. Et ils créent des classifications. Et il y a deux intelligences qui fonctionnent bien ensemble, l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Interpersonnelle, c'est pour entrer en relation avec les autres. J'imagine aussi que toi, tu as développé énormément cette intelligence. Mais elle doit aussi être développée chez les profs, chez les politiciens, chez les vendeurs, chez tous ceux qui ont besoin d'entrer en relation. Et puis l'intelligence intrapersonnelle, c'est la connaissance de soi. C'est le fait de connaître ses forces et ses faiblesses, de tirer parti de ses erreurs pour les faire un peu moins. Ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Et l'un plus l'autre, on va dire, on aboutit à peu près à ce que Goleman appelait l'intelligence émotionnelle. Voilà. Voilà, ça fait 8 intelligences.
À l'école des intelligences multiples, Bruno Hurst.
Message de vie. Donner à comprendre.
D'abord, j'aimerais faire comprendre qu'elles sont très faciles à comprendre. Là, j'ai cité les noms savants. Mais en fait, c'est 8 univers. La verbalinguistique, c'est l'univers des mots. C'est plus simple à comprendre. La verbalinguistique, c'est l'univers des images, tout simplement. Musical rythmique, c'est l'univers des sons. Le corporel kinesthésique, c'est l'univers du corps, etc. L'univers, l'intelligence interpersonnelle, c'est l'univers des relations interpersonnelles avec les gens. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'univers intérieur qu'on porte tous en nous-mêmes. Donc c'est des concepts qui touchent très facilement et qu'on peut, je disais tout à l'heure, qu'on peut l'expliquer à un gamin ou une gamine de grande section. Je l'ai vu, hein, ça fonctionne très bien. On dit à des petits-enfants, est-ce que tu aimes souvent être avec des copains et des copines? Ah ouais, j'adore ça. C'est une manière d'être intelligent. Est-ce que tu aimes de temps en temps être dans ton coin tranquille pour rêver à ta manière, réfléchir? Ah oui, ça j'aime bien. C'est une autre manière d'être intelligent. Est-ce que tu aimes bien les mots quand ta maman ou ton papa te lit des histoires, etc.? Ah oui, j'adore. C'est encore une autre manière d'être intelligent. Donc, tous ces huit intelligences, on commence à la phrase par « Est-ce que tu aimes ?» Les mots, les images, être seul, être avec les autres, la nature, etc., ça correspond à ces huit formes d'intelligence. Et là, tout le monde comprend. Et il n'y a pas besoin d'avoir un QI de 140 pour comprendre cette... Alors, ça paraît très simpliste, mais moi, j'ai écrit déjà plusieurs bouquins sur ce thème d'intelligence multiple, hein, pour des profs, pour des managers, pour d'autres, pour des parents... Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir épuisé le sujet, tellement quand on va à l'intérieur, le fait de distinguer ces huit formes d'intelligence, ça peut nous mener très très loin. Et c'est peut-être ça qu'on va développer selon les questions que tu voudras bien me poser.
J'aimerais développer comment les intelligences multiples peuvent aider par exemple les enfants en échec scolaire. Comment on peut aider les jeunes en échec scolaire? Mais ça peut aussi aider les personnes qui ne sont plus à l'école, parce qu'on peut se former à tout âge, alors, évoluer à tout âge. Voilà.
Je vais répondre à cette question qui touche là où ça fait mal, hein, le système scolaire. Un Américain spécialiste des intelligences multiples, Bruce Campbell, considère que 80% des échecs scolaires, 80% des échecs scolaires pourraient être évités si on proposait une pédagogie intelligence multiple aux enfants. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure que sur les 8 intelligences, il n'y en a que 2 qui sont massivement utilisées dans le système scolaire. C'est-à-dire que si, par malheur, un enfant a d'autres formes d'intelligence bien développées, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir, avant d'entrer à l'école, par exemple, il a énormément développé son intelligence musicale rythmique ou visuelle spatiale ou je ne sais pas quoi. Quand il va entrer dans l'école, il est français, on va lui parler espagnol, on ne va pas parler la même langue que lui, donc il va forcément être en échec. Ce qui ne veut pas dire qu'il est intelligent, mais on ne parle pas la même langue. L'enseignant parle une langue et l'enfant comprend une autre langue, donc l'échec est patent. Et forcé, je dirais, c'est-à-dire, et donc si on entre dans une, si l'enseignant accepte de rentrer dans une démarche intelligence multiple, il va se dire, j'ai devant moi 25, 30, 35 élèves, ils ont tous un bouquet d'intelligence, moi je parle d'un bouquet d'intelligence comme ça, qui est différent du mien. Alors déjà, c'est une prise de conscience qui n'est pas très facile souvent pour les profs, d'accepter que les enfants qui sont en face de lui n'ont pas les mêmes formes d'intelligence que lui, le même bouquet d'intelligence que lui. Statistiquement, 80% de ses élèves sont différents de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des élèves qui fonctionnent bien à la manière de fonctionner. Bref. Et donc, s'il accepte d'aborder un sujet autrement qu'avec des mots ou de la logique, on va dire, pour simplifier, donc parfois par le visuel, parfois par l'interpersonnel, parfois par l'intrapersonnel, par le naturaliste, à chaque fois qu'il va, par exemple, prendre l'intelligence musicale rythmique pour aborder un sujet, il va toucher des élèves qui n'entendaient rien de ce qu'il disait, et là, il va entendre, c'est le bon langage pour eux. Et dans ce cas-là, cet élève ne va plus être en échec. Alors, je vais te raconter une histoire.
Oui, je veux bien.
Quand j'ai la chance d'avoir des enseignants sous la main pendant plusieurs jours, et qu'ils soient de bonne volonté, à la fin du premier jour, je leur demande, en gros, de me dire je leur explique les huit intelligences, je leur dis, faites-moi une liste un peu de là, des intelligences pour vous qui sont très fortes et d'autres qui sont plus faibles. Donc de me faire une liste, de me mettre sur un bout de papier. Et chez moi, le soir, je crée des groupes et je mets ensemble des enseignants qui ont mis, par exemple, comme intelligence la plus faible, je ne sais pas, musicale, rythmique, corporelle, kinesthésique. Mais je fais des groupes où ils sont dans leur intelligence la plus faible, c'est-à-dire... Voilà. Et le lendemain, je leur demande de faire un travail scolaire très simple, mais en utilisant uniquement cette intelligence où ils sont mauvais. Alors d'abord, je dois gérer un stress d'enfer, de l'adrénaline d'enfer, parce que les profs détestent bien sûr être mis en difficulté. Et là, je leur demande de se mettre dans une position de là où ils ne savent pas faire et de faire un travail scolaire avec ça. Donc ils ont beaucoup de mal, mais quand ils jouent le jeu, c'est intéressant. Et après, je change les groupes et je les mets dans leur intelligence la plus forte pour qu'ils fassent la différence. Après, on fait un débriefing. Et ils se rendent compte avec leur triple, je dirais, de ce que peuvent vivre leurs élèves qui sont en échec scolaire. C'est-à-dire parce qu'ils l'ont vécu. Je les ai mis en échec scolaire pendant 20 minutes. Je leur ai dit, vous faites un travail scolaire avec là où vous êtes mauvais. Et pour eux, c'est terrible. Mais ils comprennent. Après, quand ils rentrent dans leur classe, ils comprennent que l'élève qui est en échec scolaire, il n'est pas en échec scolaire parce qu'il est stupide, parce qu'il est débile, parce qu'il est paresseux, parce je ne sais pas quoi. C'est parce que on ne leur parle pas le bon langage. Et le bon langage, pour certains, ça sera l'intelligence musicale rythmique, pour d'autres, ça sera l'intelligence visuelle spatiale. Et sinon, ils seront soit en échec, soit ils seront médiocres.
Message de vie. Donner à comprendre.
À l'école des intelligences multiples, Bruno Hurst. Écoutez Message de vie, MES, plus loin sage, la série d'émissions du voyage intérieur. Aujourd'hui, notre invité, Bruno Hurst, à l'école des intelligences multiples.
Alors, ils disent souvent, il y a 35 élèves, il y en a toujours 6-7 qui vont avoir un principe d'intelligence qui correspond à une norme. Quelle est la solution entre la quantité, le stress d'un programme à respecter?
Justement, quand on travaille avec des enseignants, on leur montre qu'on peut au contraire tirer parti de cette différence comme une richesse pour enrichir leur enseignement. Faut-il que... C'est-à-dire que lorsqu'ils vont présenter, je ne sais pas, un concept, les fractions par exemple, tu prends les fractions en primaire, ça pose des problèmes à plein d'élèves, les fractions. La musique n'est faite que de fractions. Une noire, ça fait deux croches qui font quatre doubles croches, ce ne sont que des fractions, tout ça. Bon, on peut enseigner les fractions avec de l'intelligence, ça veut dire musicale rythmique. Pour certains élèves, ils vont comprendre les fractions, alors qu'avec le raisonnement, ils ne vont pas comprendre. C'est-à-dire que si on enrichit sa pédagogie avec une approche avec plusieurs intelligences, utilisées pas toutes ensemble, parce que ce serait trop lourd, mais de temps en temps, pour toucher tous les élèves, d'une part, il y a des élèves qui vont se réveiller lorsque leur intelligence forte va être sollicitée et qui vont réussir, donc ils vont vouloir développer les intelligences où ils sont plus faibles, donc il y a un espèce de cercle vertueux. Et pour le prof aussi, pour l'enseignant, ça enrichit sa manière d'enseigner aussi, parce que un enseignant va découvrir qu'on peut aborder un sujet de beaucoup plus de manières que dicter un cours sur, là-dessus. C'est, quand on se pose la question, comment je pourrais aborder telle notion avec, avec une chanson, avec un bout de film, avec un dessin, avec une interview, je ne sais pas quoi, ça enrichit l'enseignement. Et ce qui est rigolo, c'est que les enseignants qui acceptent d'entrer dans cette démarche d'intelligence multiple, ils ne reviennent jamais en arrière, parce que c'est beaucoup plus passionnant d'enseigner comme ça. Et alors, il y a 35 élèves, bon, mais dès le moment où tu pars, tu fais un enseignement qui cherche à toucher régulièrement les 8 formes d'intelligence, sans savoir si ça va plus ou moins aux 35 élèves, tout le monde est enrichi là-dedans.
Même être témoin de ce qu'un enseignant m'a dit, il m'a dit, pour moi, ma plus grande satisfaction pour un enseignant, c'est de voir qu'un enfant ou un élève a compris. Et quand il a compris, c'est un bonheur pour moi.
Je comprends, j'ai connu ça, quand on voit le regard des élèves qu'ils ont compris. Mais ce mot « compris » peut porter à confusion. Parce que si un enseignant n'a pas compris, n'a pas intégré que les élèves sont différents de lui, peut-être qu'il n'aura jamais l'idée de leur parler un autre langage que ce qu'il utilise. Je donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Quand j'ai découvert ça, il y a longtemps, hein, en Australie, c'était, oui, très longtemps, et après avoir suivi une formation avec des profs australiens, j'ai été dans plein d'écoles, du primaire jusqu'à la terminale, et je me souviens en particulier dans une petite ville au nord de Sydney, de CM1 à peu près, je ne me souviens plus exactement le niveau. Je suis accueilli par la directrice, on rentre dans la salle de classe, je m'assieds sur une petite chaise là, avec la directrice à côté. Et l'enseignant, qui avait, on va dire, la cinquantaine, hein, grisonnant déjà, disait, bon, on nous accueille, et dit, on va réviser les tables de multiplication. Tables de multiplication. Bon, c'est un espèce de graal pour les apprends tes tables, etc. Et je vois tous les élèves se lever, il met un CD avec une musique, avec les tables de multiplication en musique. Et alors, ça existe maintenant en français, mais la version anglaise était vraiment super. Et je vois toute la classe, prof compris, se mettre à danser. Mais danser comme dans Chorus Line, tous le même rythme, la même danse, bien structuré, en chantant la table de multiplication. Bon, là, ils utilisaient l'intelligence musicale rythmique, l'intelligence corporelle kinesthésique, logique mathématique, ils apprenaient les tables. Et là, je voyais les yeux briller. Et je voyais aussi les yeux briller du prof, parce que son plaisir à voir tous ses élèves participer et comment dire, ils étaient dans un apprentissage tous ensemble où ça fonctionnait bien parce qu'il avait intégré cette notion de proposer une manière de faire différente que de je vais vous dicter mon cours et taisez-vous. C'était génial, j'en garde un souvenir extraordinaire. Et puis après, on a été dans une autre école où là, l'institutrice avait gardé que tous les enfants en grande difficulté, en très grande difficulté, parents alcooliques, etc. Bon. Et là, en voyant cette jeune femme, c'était un sentiment extrêmement fort, mais extrêmement curieux de s'intéresser à cette population d'enfants qui était très mal partie, hein. Très très mal parti dans la vie pour plein de raisons. Et ces enfants dont les regards commençaient se mettaient à pétiller quand ils avaient compris, comme tu le dis, parce qu'elle utilisait des choses, une approche comme ça complémentaire, tout à coup j'ai eu le sentiment de voir l'humanité en marche. C'est très très fort, quoi. Il se passait quelque chose là de ce jour-là. Et ça parce que l'enseignant avait eu cette démarche. Et ces enfants qui auraient pu, dans d'autres contextes, être exclus du système, exclus du bord de la route, ils avançaient, ils n'étaient pas au bord de la route.
Message de vie, entendre un monde qui nous entoure.
Je voudrais m'envoler sur le dos d'une abeille et glisser entre les barreaux. M'envoler, c'est ça, sur le dos d'une abeille, celle rocher, un rayon du soleil. Grimper, grimper, grimper tout en haut. Salut gardien, excuse-moi, je t'enverrai une bonne bouteille. 25 piges, dont 5 au cachot. Tiens serré entre tes murs, tellement tu m'aimes. Ça fait un bail que tu dois me trouver beau. 25 piges, dont 5 au cachot. Je voudrais couler dans ce tuyau qui descend, vers les égouts, vers la mer. C'est ça, remplir l'évier, plonger dedans. 25 piges, dont 5 en enfer. Prison, tu m'aimes. Tu me tiens serré entre tes murs, tellement tu m'aimes. Ça fait un bail que tu dois me trouver beau. 25 piges, dont 5 au cachot.
Message de vie, MES plus loin sage, la série d'émissions du voyage intérieur avec notre invité Bruno Hurst et son ouvrage « À l'école des intelligences multiples ». Peut-on développer au cours de notre vie d'autres intelligences ? N'est-il pas trop tard ?
Écoute bien, parce que j'attire l'attention de l'auditeur peut-être là. C'est que à tout âge, toute notre vie, nous pouvons développer les 8 formes d'intelligence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si à l'école on a été mauvais en maths, par exemple en sciences, les sciences, faut pas m'en parler parce que c'était la catastrophe, tout ça. Adulte, souvent on dit ben les sciences, on n'en parle plus jusqu'à ma mort. Dommage, on se coupe d'un monde immense, passionnant, et puis surtout, on ne transmet pas à ses enfants, à son entourage, des choses liées aux sciences. Donc l'idée dernière, c'est de dire, mais bougez-vous les fesses, vous les adultes, c'est-à-dire que vous pouvez toujours développer vos 8 formes d'intelligence, même celles qui sont restées en sommeil pour des raisons ou pour une autre, quoi, vous adultes. C'est-à-dire, aidez vos enfants à développer au mieux, harmonieusement, leur propre bouquet d'intelligence, qui ne sera pas comme le vôtre, évitez d'en faire des clones, et mais vous aussi, développez vos intelligences que vous avez délaissées. Enrichissez-vous toute votre vie en développant des 8 formes d'intelligence. Bon. Donc c'est possible. Alors ça paraît ringard, ça paraît idiot, mais moi je crois beaucoup aux changements, aux petits changements qui paraissent ringards et stupides, plutôt que dire il nous faudrait plus de moyens, il faudrait plus d'argent, il faudrait donner une tablette à tous les enfants dès leur berceau, ce qui est stupide. Je crois aux solutions qui coûtent rien.
Et puis c'est intéressant, parce que c'est de se reconnaître soi-même qui on est, et de le savoir, c'est de trouver ses compléments. Les gens complémentaires avec qui on peut s'associer.
Je tente d'aller plus loin.
Allez,
c'est-à-dire que la lumière que tu reconnais chez les autres, tu peux aussi la développer chez toi. C'est-à-dire que l'intelligence qui est en sommeil, chez toi pour différentes raisons, tu peux aussi la développer. Elle est en sommeil, elle peut se réveiller. Alors l'autre, qui a bien développé cette intelligence qui est en sommeil chez toi, peut t'aider. Mais ce qui est intéressant, c'est de la développer personnellement, de dire que ce bouquet d'intelligence soit aussi harmonieux que possible. C'est-à-dire que là où je suis dans l'ombre, que je puisse aussi aller dans la lumière. Et ça, c'est une espèce de pari pour la vie, et pour nous enrichir. Et puis pour enrichir ceux qui sont autour de nous. Quand on est parent, on a développé des formes d'intelligence. Et alors c'est drôle quand il y a des fratries un peu importantes. Bon, il y a des parents avec qui ont 3, 4, 5 enfants. Parfois, il y en a qui sont brillants et puis il y a le vilain petit canard. Les vilains petits canards, ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils sont brillants, les autres enfants sont brillants et puis il y a le vilain petit canard. Tout à coup, ils découvrent avec les intelligences multiples que le vilain petit canard, il a juste des formes d'intelligence différentes. Et que si on l'aide à s'appuyer sur ses forces, il va devenir un cygne. Et un cygne qui va peut-être dépasser les autres. Mais l'école le considère comme un vilain petit canard parce que ça ne marche pas à l'école. Du coup, l'entourage qui voudrait qu'il réussisse à l'école le considère comme un vilain petit canard. C'est juste un problème qui n'a pas les mêmes formes d'intelligence que les autres. Et ça, il faut l'accepter que... Là, on est dans l'acceptation de la diversité. Et on a beaucoup de mal. Souvent, s'il nous reste un petit peu de temps, souvent, je raconte un mythe, un vieux mythe grec, qui a été oublié, mais qui, pour moi, devrait être à notre esprit en permanence. C'est le mythe de Procuste. Pas grand monde se souvient de mythe de Procuste. C'est un mythe de la Grèce ancienne. Je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas. Procuste était un géant qui habitait au bord d'un chemin, dans une petite maison. Et quand un voyageur passait, il prenait le voyageur et il le mettait sur un lit en fer. Il avait un lit en fer. Et si la personne était plus grande que le lit, il coupait tout ce qui était passé. Et si la personne était plus petite que le lit, il étirait la personne pour qu'il soit juste à la dimension du lit. Alors on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mythe abominable, sanglant, que les Grecs ont inventé encore? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste, ça nous parle de standardisation. On passe notre temps à vouloir standardiser les enfants et les adultes, à partir des enfants. Et ceux qui sont dans les ministères, ils voudraient que l'enfant apprenne à lire ou apprenne telle notion de calcul à tel âge, ce qui est une stupidité absolue. Et comme si on disait à une mère, votre enfant doit marcher à 10 mois, 3 semaines et 2 jours. Certains marcheront en 9 mois, d'autres à 15 mois, mais 100% de réussite. C'est vouloir imposer cette standardisation qu'on impose à l'école. À l'école, il y a des contrôles qui sont faits, qui sont imaginés par au ministère d'Éducation nationale, où l'élève doit savoir faire telle chose à tel moment. C'est une absurdité biologique. Et c'est le mythe de Procuste. Voilà. Alors, Einstein disait ça légèrement différemment.
Oui, il disait quoi ?
Il disait, si on demande à un poisson de grimper à l'arbre, il se considérera comme un crétin toute sa vie. Voilà, la manière de contrôler, de faire des contrôles dans notre système éducatif, c'est pour beaucoup, ils sont poissons, on leur demande de grimper à l'arbre. Alors le singe, lui, il grimpe très bien à l'arbre, mais l'éléphant, le poisson ou le phoque, il aura beaucoup plus de mal.
Eh bien, il faut admettre que c'est une ancienne intelligence traditionnelle, c'est une vieille. Ce principe-là fait partie d'une intelligence. Je pense qu'un poisson peut grimper à un arbre et on l'a instauré depuis des siècles. Et c'est comme ça que ça a fonctionné.
Oui.
Ben, aujourd'hui, on évolue, donc c'est ce qui est normal. On change. Et ça, tu n'as pas l'air d'être convaincu. Tu n'y crois pas.
Non, moi je dirais qu'il est intéressant d'apprendre aux poissons à grimper à l'arbre, comme il est intéressant aux singes d'apprendre à nager et à plonger dans les profondeurs. Là, tu remontes loin. Là, si tu remontes au moment où le pseudo-être humain était poisson. Juste pour rappeler que Newton, Tolstoï, Churchill, Einstein, Georges Brassens, tous ces gens-là étaient mauvais à l'école, ils ont eu plein de problèmes. Brassens a frôlé d'être... Mais ils ont trouvé quelqu'un qui leur a permis de sortir et de ne pas être en échec scolaire. Et l'intelligence multiple, ça permet, je pense, ça permettrait pour beaucoup d'enfants et pour beaucoup d'adultes d'avoir une vie meilleure.
À l'école des intelligences multiples, écrit par Bruno Hurst aux éditions Hachette Éducation. Il a écrit d'autres ouvrages, J'aide mon enfant à mieux apprendre ainsi que J'aide mon enfant à développer son estime de soi aux éditions Erol. J'espère que cette émission vous a permis de mieux situer votre propre intelligence, et tant mieux. Bruno Hurst a créé l'association Mieux Apprendre. Son site, c'est tout simple, mieux-apprendre.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye.
Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.
Pas que